Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et nous sommes, comme la semaine dernière, en compagnie d'Alain Caillé, qui est sociologue et directeur de la publication du MOS.
Une revue qui s'appelle la Revue du MOS, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales.
Diable. Écoutez, la semaine dernière, je suis sortie, mais déprimée, comme c'est difficilement permis de le dire, des studios. J'avais finalement eu l'impression que la mondialisation libérale était un espèce d'énorme système qui broyait un petit peu tout sur son passage, une espèce de machine infernale, on pourrait dire, et qui semblait, en tous les cas, un petit peu, qui semblait s'être imposé à nous, ou nous avoir été imposé. Est-ce que je me trompe ou...
Est-ce que vous avez tort d'être déprimé? C'est ça la question.
Bon, ça, je pense que j'ai un peu raison.
Ah, bon.
Mais est-ce que ça nous a été imposé?
Est-ce que ça nous a été imposé? Mais j'ai peur, si je vous réponds ce que je pense, que vous soyez encore plus déprimé.
Oui, allons-y.
Mais tant pis, allons-y pour un petit coup de déprime supplémentaire. Et personnellement, c'est peut-être mon caractère, mais j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux faire un tableau un petit peu noir des choses et pour après voir comment on peut essayer de rebondir. Donc, approfondissons la déprime. Et si je pense que la réponse à la question que vous posez risque de vous déprimer encore un petit peu plus, mais vous le cherchez manifestement avec le type de questions que vous posez, c'est parce que, oui, ça nous a été imposé d'une certaine façon, mais comme très souvent, ce qui est imposé ne s'impose que parce que ça rencontre aussi une certaine adhésion. Qu'est-ce qui a été imposé? Qu'est-ce qui rencontre de l'adhésion? Ce qui a été imposé, je crois j'ai essayé de le dire la semaine dernière, c'est cette vision tout économiste du monde, cette idée que l'être humain n'est qu'un agent économique, c'est-à-dire un individu rationnel, maximisateur, séparé des autres agents humains, et bon, égoïste ou pas égoïste, c'est pas tellement le problème, il est indifférent aux autres, et il ne cherche qu'à maximiser sa propre fonction d'utilité, comme diraient les économistes. Bien, ça, c'est ce que nous avons constaté à la Revue du MOS dans les années 80, c'est pour ça qu'on a fondé la revue, pour réagir contre ce courant de pensée qui devenait absolument... qui faisait un raz-de-marée dans les sciences sociales et en philosophie politique. C'était une véritable révolution intellectuelle que je résume en deux mots pour bien camper le paysage. Au fond, pendant deux siècles, il a régné une espèce de division du travail simple entre les diverses sciences sociales. Les économistes disaient, nous allons mettre en œuvre notre modèle de l'homo economicus, c'est-à-dire la représentation du sujet humain comme une machine à calculer, indifférente aux autres. Ce modèle, nous savons qu'il n'est pas vrai dans l'ensemble, mais il est suffisamment efficace pour expliquer ce qui se passe sur les marchés des biens et services. Mais nous savons qu'il existe d'autres types d'êtres humains que l'homo economicus. Il existe aussi un homme éthique, un homo ethicus, un homme religieux, homo religiosus, un homme politique, homo politicus, etc., etc. Ce qu'on voit dans les sciences sociales à partir des années 70-80, c'est au contraire l'affirmation que finalement, tout bien pesé, toutes ces différentes figures un peu baroques de l'homme éthique, de l'homme religieux, de l'homme social, de l'homme politique, tout ça c'est des vieilleries, et que la vérité profonde de toutes ces facettes de l'humain, c'est l'homme économique, l'homme calculateur, rationnel. Ça, c'est l'idée qui s'impose dans les sciences sociales, en philosophie politique, avant de s'imposer dans la réalité. Si elle s'impose, je rejoins votre question, c'est quand même pas totalement l'extérieur. C'est toujours pareil, il y a peut-être une forme de servitude, mais il y a une dimension de servitude volontaire qui fonctionne dans cette affaire-là. Pourquoi est-ce que ça s'impose? Pourquoi est-ce que ça triomphe? Déjà, on l'a dit la semaine dernière, parce que les idées contraires qui se condensaient, qui se cristallisaient, notamment dans le marxisme, ont subi une défaite historique colossale. C'est une première raison négative. Mais c'est aussi parce que, à travers l'imaginaire de l'homme économique, ce qui triomphe, c'est les valeurs d'individualisation. C'est donc des valeurs qui sont, à certains égards, au cœur de l'idéologie démocratique. L'idéologie démocratique, c'est une combinaison des valeurs de liberté individuelle d'une part et des valeurs d'égalité d'autre part. Personnellement, je pense que les deux doivent s'équilibrer. Je pense que l'imaginaire de la gauche privilégie les valeurs d'égalité sur les valeurs d'individualité, mais ces valeurs d'individualité sont partagées par les modernes. D'ailleurs, on voit bien, tout le monde veut s'individuer, s'autonomiser, c'est la valeur centrale. Et au bout du compte, bah, que ça nous plaise ou non, et ça, parce que ça pose des sacrés problèmes, si nous voulons tous revendiquer la maîtrise individuelle sur notre propre destin, si nous voulons décider de tout en tant qu'individu, alors la seule machine à décider de tout en tant qu'individu, c'est le marché. Et il se produit donc une conjonction, je sens que vous allez être de plus en plus déprimé, il se produit donc une conjonction troublante et sacrément problématique entre les valeurs, je dirais, révolutionnaires et les valeurs du capitalisme.
Mais pourtant, on s'aperçoit bien que le système, finalement, ne fonctionne pas. En tous les cas, ne reçoit pas l'assentiment de la majorité, ou en tous les cas, suscite un certain nombre d'opposition. Comment se fait-il que néanmoins, il continue... comment ça se fait que ce système continue de perdurer ?
Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien ce que vous dites là, quand vous dites qu'il suscite certaines oppositions. Oui, je veux bien, mais de qui, lesquelles, où ça, quand ? Tout le monde n'est pas satisfait, à commencer par vous et moi, ça c'est entendu. Mais on ne voit pas pour l'instant, même s'il y a bien sûr énormément de mécontentement, et notamment dans les pays où la dégradation économique est considérable, ce qui n'est pas encore le cas en France, même si le chômage va recommencer à exploser. Bon, tout le continent latino-américain, l'Afrique, tous ces pays sont des pays en voie de catastrophe économique rampante. Donc il y a des oppositions, bien sûr, mais moi ce qui me frappe, c'est que ces oppositions ne réussissent pas à former système, pour employer l'expression que vous aviez utilisée lors de la dernière émission, à former un système de valeurs, un système idéologique, ainsi une vision politique suffisamment cohérente pour rassembler tous les mécontentements, qui sont des mécontentements extrêmement divers.
Des sous et des hommes en compagnie d'Alain Caillé, qui cette fois me fait toucher le fond le plus absolu. Je suis au bord du suicide, alors est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir plutôt quelles solutions on pourrait, quelles sont les possibilités de lutte, les possibilités de changement face à tout cela?
Oui, mais pour le suicide, attendez au moins la fin de l'émission. On va voir si on peut imaginer quelque chose. Je crois qu'une des raisons principales de la décomposition relative des idées de gauche, de l'imaginaire de progressiste de gauche et s'opposant au méga, ce que j'appelle moi, pour ma part, le méga-capitalisme, et une des raisons du triomphe de ce méga-capitalisme dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, c'est le changement d'échelle. C'est évident que face à un capitalisme qui est de plus en plus mondialisé, l'échelle politique des États-nations traditionnelles est de plus en plus mal placée. C'est pas qu'on puisse rien faire, mais il y a une espèce de hiatus de discordance. Si on dit ça, ben, la voie d'un pan de la solution, je crois, se dessine. Puisque le capitalisme est mondialisé, il faut faire émerger des forces, des contre-pouvoirs, des forces de contestation qui soient également mondialisées. Bon, c'est la grande idée qui préside à tous les rassemblements, à tous les forums sociaux de Porto Alegre, de Florence, etc. Et tout le monde sait bien qu'il y a un espoir à chercher du côté de la formation d'une société civile, que j'appellerais une société civile mondiale associationniste. Alors, cela étant, la question c'est, est-ce que ça, d'abord, quelles sont les perspectives de cette société civile associationniste, et est-ce que ça sera suffisant, est-ce que cet échelon mondial sera suffisant? Je ne le pense pas, je crois qu'il est absolument indispensable, mais je pense qu'il n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut, dans les mouvements d'opposition au méga-capitalisme, autrement dit à l'économisme généralisé, Je crois qu'il faut articuler, structurer une revendication démocratique qui sur trois plans différents, qui combine trois échelles différentes. L'échelle d'une démocratie locale, enracinée, fondée sur des relations d'interconnaissance, et qui d'ailleurs devrait, à mon avis, remettre en vigueur un mot d'ordre de démocratie directe, pas tant une démocratie participative qui est toujours manipulée par différentes forces, mais de démocratie directe. Bon, il faudra savoir ce qu'on met sous démocratie directe, c'est encore une autre discussion. Je crois que l'échelon de l'État-nation n'est pas du tout mort. Je crois qu'il faut redonner vie. Ça, c'est le deuxième échelon de la démocratie représentative. Il y a encore des marges de manœuvre dans les politiques économiques nationales, il ne faut pas les négliger. Mais tout ceci doit s'articuler à un troisième niveau de la démocratie, qui est cette démocratie mondiale, qui elle est une démocratie d'opinion. C'est pas la démocratie directe de l'entre-soi, c'est pas la démocratie représentative des États-nations, c'est une démocratie d'opinion mondiale. Et l'important, c'est de faire naître, de canaliser, de transformer en force effective cette opinion mondiale.
Qu'est-ce que vous entendez par démocratie d'opinion ?
Démocratie d'opinion, je crois que ce qui est important, c'est de permettre à des gens, des hommes et des femmes de différents pays, de différentes cultures, de différentes traditions, de se reconnaître comme participants d'un même combat, d'un même ensemble de valeurs minimales. Alors après, il y a le problème des relais de l'opinion, à travers les médias, des pressions sur les classes politiques locales, etc. Mais on peut quand même espérer que cette opinion, qui ne pourra pas jouer toute seule, qui ne se suffira pas, c'est pour ça qu'il faut un relais des nations, des États-nations, que cette opinion pèse sur tout un ensemble de choses, que ce soit par des campagnes de boycott de marques, de grandes marques, ou par le discrédit jeté sur certaines pratiques. On voit bien quand même aujourd'hui avec l'affaire de l'Irak qu'il y a une gigantesque bataille de l'opinion mondiale qui est en train de se mener.
Voilà. Il y a quelque chose qui m'effraie un petit peu en réalité dans ce que vous dites, même si ça a été ensuite tempéré, quand vous parlez d'une sorte de démocratie mondiale, est-ce que ça risque pas de nous faire verser dans finalement ce qui est l'impression qu'on peut vivre tous dans un grand monde unifié, dans lequel tout serait tout beau, tout rose?
Oui, je partage tout à fait votre appréhension. C'est pour ça que j'ai essayé de dire que la nécessité de faire émerger une société civile internationale et une démocratie d'opinion mondiale n'avait de sens qu'envisagée en complément avec une réflexion sur la place possible aujourd'hui pour les États d'une part, et puis d'autre part sur une réflexion sur le rôle de la démocratie locale territorialisée. Car en effet, je crois pressentir ce qu'il y a derrière votre question. Je crois finalement assez dangereux, même si je la partage en partie, c'est une certaine idéologie associationniste généralisée qui règne aujourd'hui et qui espère au bout du compte pouvoir contourner les questions de pouvoir, les questions de rapport de force, les questions de pouvoir, et qui se dit finalement le capitalisme est là, on n'y peut pas grand chose, il y a des États, nous ça ne nous concerne pas, ce qui nous concerne c'est de tresser des liens d'amitié, d'alliance, de mutualisation comme on dit parfois, de réseau entre eux, des associations. Et au fond, on pourrait développer une sorte de fraternité à l'échelle mondiale entre gentils militants, des gentilles associations. Ben oui, il y a une version rose là-dedans qu'il faut prendre au sérieux, elle est tout à fait importante, c'est la solidarité dans les luttes, c'est des valeurs d'amitié, etc. Mais il me paraît évident que ça ne suffira pas. On le voit très clairement dans ce qui se passe actuellement à propos de l'Irak et qui mérite qu'on y revienne peut-être un petit peu.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie d'Alain Cahier. Et j'essaye toujours de suivre ce que vous dites. Il y a quelque chose que j'ai encore pas compris, c'est vous parliez à un moment du fait que l'échelle nationale peut avoir encore quelques pertinences, mais dans l'émission précédente, il me semble qu'on avait dit finalement que la mondialisation libérale était telle qu'elle faisait système, et que finalement, même quelqu'un qui voudrait échapper à ce système-ci ne pourrait pas le faire. Alors je vois pas comment on peut s'en sortir, même en sortant ce mot d'échelle nationale, de démocratie nationale qui resterait pertinente.
Oui, vous avez tout à fait raison, il y a une contradiction apparente, qui n'est pas seulement une contradiction dans mon propos, qui est la contradiction réelle, je crois. Les États-nations traditionnelles héritées, et la forme de l'État-nation principalement est répandue en Europe occidentale, ne sont plus tout à fait à l'échelle des phénomènes économiques. Et d'ailleurs, une des raisons que nous n'avions pas abordé du triomphe de la mondialisation économique, et qui là aussi laisse perplexe, c'est cet auto-dessaisissement des États-nations, et notamment la construction de l'Europe à 12, puis à 15, puis à 25, au bout du compte, aura été une extraordinaire machine à saborder le politique et à dessaisir les États-nations de leurs prérogatives. Alors il y aurait toute une réflexion à mener sur la façon dont les hommes politiques de l'Europe occidentale se sont déchargés de leurs responsabilités sur la construction européenne, une espèce de bouc émissaire en quelque sorte inversé. Alors si on dit ça, qui là encore n'est pas d'une grande gaieté, si on dit ça, soit au bout du compte, on baisse les bras, puis on se dit, il n'y a plus rien à faire, sauf à résister individuellement dans son coin ou dans des petites associations. De toute façon, le politique est mort. Je crois que c'est la tentation d'une bonne partie des altermondialistes actuels. Je pense que cette tentation est dangereuse. L'autre solution, c'est de faire renaître le politique. Mais on vient de voir qu'il ne renaîtra pas à l'échelle des nations héritées. Et on ne fera pas renaître la Troisième République française. On pourra renouer, si on veut, avec certaines pratiques keynésiennes, des Trente Glorieuses, mais on ne retrouvera pas le compromis social, la formule sociale qui régnait alors. Bien, je poursuis mon raisonnement. À ce moment-là, qu'est-ce qui reste comme solution? Moi, je crois que la véritable perspective politique pour les 2-3 décennies à venir, c'est la constitution à l'échelle mondiale de 6 à 8 ensembles politico-économiques, ensembles régionaux, politico-économiques relativement cohérents. Car au fond, les termes du choix ne sont pas très mystérieux. Soit on a un marché mondial avec une seule puissance politique, les États-Unis, un monde unipolaire, soit on essaie de faire renaître un monde multipolaire. Alors, si on dit ça, ce qui me paraît plus souhaitable, la question c'est quels sont les gros groupements possibles. J'en vois plusieurs, probablement un regroupement de l'Amérique latine, c'est ce qu'essaie de faire Lula, très, très, très manifestement, et j'espère vraiment qu'il y réussira. Pour nous, en Europe, quels sont les possibles? Moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse faire un ensemble politique à partir de l'Europe des 15 et encore moins des 25. Ça n'empêche pas de poursuivre le processus d'élargissement européen actuel, l'élargissement économique. Mais cet ensemble sera en autodissolution s'il ne se dote pas de moyens d'action politique. Ma conviction, c'est que, en fait, le seul pari plausible, c'est d'essayer de faire naître ce qu'on pourrait appeler une nation de nations, une supranation. Non pas se débarrasser des idées de nation, qui ont très mauvaise presse, y compris auprès d'une bonne partie de la gauche. Non pas se débarrasser des idées de peuple, de nation, au contraire, les prendre au sérieux, mais les restructurer du point de vue d'une logique démocratique à l'échelle mondiale actuelle. Quelle est la nation de nations plausible en Europe occidentale à l'heure actuelle? Plausible, c'est-à-dire susceptible de se doter de moyens d'action politique, de politique économique, de politique diplomatique, de politique militaire, stratégique, etc. Bien, je crois que c'est fondamentalement le bloc initial de l'Europe économique, la communauté européenne, le bloc des 6 premiers, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie, et ce qu'on appelait à l'époque le Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Un peu plus, un peu moins, d'autres pays pourraient s'y adjoindre. Mais là, il y aurait une longue discussion à mener, mais je crois que ce sont les peuples qui peuvent se choisir réciproquement les uns les autres pour constituer un premier embryon sérieux, véritable d'Europe politique.
Si on reprend la toute première question que j'avais posée dans la toute première émission, qui parlait de la compétitivité internationale, parce que c'est elle finalement qui entraîne l'ensemble du mouvement, en quoi le fait qu'une supranation serait créée pourrait-elle contrecarrer cette recherche permanente de la compétitivité qui amène tout ce que l'on sait, en sachant que l'OMC, par exemple, se refuse à accepter des préférences, je ne sais pas comment on pourrait dire, des préférences nationales. Je sais par exemple que la France n'a pas trop le droit de préférer acheter ses bananes aux Caraïbes plutôt qu'aux USA. Alors, est-ce que ça suppose qu'on brise la logique de l'OMC, qu'on récuse ou qu'on fasse une rupture avec l'OMC?
Une rupture, non. Mais vous parliez dans l'émission précédente des rapports de force, de la modification des rapports de force qui avait fait basculer d'une ère social-démocrate keynésienne à une ère néolibérale. Et bien sûr, ce sont des rapports de force qui ont changé. Dans les organismes internationaux, qu'il s'agisse du FMI, qu'il s'agisse de l'OMC, qu'il s'agisse de bien d'autres organismes, encore l'ONU actuellement, dans les jours que nous vivons, on voit bien que ce qui se produit, ce sont des rapports de force. Et donc, le problème, je crois, n'est pas de sortir de l'OMC, c'est de le réformer d'une part, et puis c'est de mettre en place, des contre-pouvoirs ou des forces suffisantes pour contrecarrer les diktats américains. Car les États-Unis, on l'a bien vu avec le protocole de Tokyo, on l'a bien vu avec les accords de Doha, signent éventuellement dans des rapports, lorsqu'ils sont battus dans des rapports de force de négociation au jour le jour, signent des papiers qu'une semaine après ils refusent d'appliquer. Tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoirs économiques, financiers, idéologiques et militaires ailleurs. Et donc aussi longtemps qu'on sera dans cette situation-là, On pourra développer les idées les plus vertueuses que l'on voudra sur la mondialisation alternative, mais ça restera à peu près nul et non avenu. Le seul moyen d'enforcer, comme diraient les Anglais, de donner du poids véritable aux idéaux qu'on aimerait développer, c'est de les incarner dans un État ou dans un ensemble d'institutions qui soient dotées de puissance politique, militaire, idéologique et financière véritable. La question étant de savoir quelles sont les valeurs que l'on veut défendre.
Mais justement.
Comment justement?
Quelles seraient les valeurs que pourrait défendre? Enfin, c'est surtout, la vraie question que je me posais, c'est quelles sont les valeurs qu'on peut se reconnaître qui seraient communes à la France, l'Allemagne, l'Italie? C'est en quoi, effectivement, ces pays-là sont plus pertinents que d'autres?
Oui. Je crois que c'est une question à deux niveaux, puisque nous parlions tout à l'heure de la nécessité de faire émerger une société civile mondiale qui échappe au choc des civilisations, donc qui permet de rassembler des hommes et des femmes de bonne volonté, issus de traditions chrétiennes, musulmanes, marxistes, bouddhistes, etc. Donc voilà une première question. Est-ce qu'il y a un stock minimal de valeurs universalisables qui permettent à des gens d'un bout à l'autre de la planète de dire nous poursuivons grosso modo la même lutte, nous défendons la même conception de ce que c'est que l'humain. Ça, c'est une première question, qui est la question éthique, ou la question, je dirais, d'une méta-éthique, d'une éthique en surplomb, c'est-à-dire l'éthique qui pourrait hériter de toutes les éthiques énoncées jusqu'à présent par les grandes religions mondiales ou par les grandes idéologies politiques occidentales. Ça, c'est une première série de questions. Et la deuxième question est beaucoup plus circonscrite. Elle est celle de savoir sur quelle valeur plus particulière pourrait se constituer cette unité politique de l'Europe occidentale que je décrivais à très grossier tout à l'heure.
Justement, je crois que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question.
Ah, pas du tout, non.
Quelle
mais j'essaie de savoir si c'était une question sur le premier point, sur le second.
Sur le second.
Bon. Ben, sur le second, alors là, on est en pleine navigation à vue, dans le brouillard. Qu'est-ce qui permet de penser que certains peuples seraient plus proches les uns des autres que d'autres peuples? Bon, ben alors là, on entre un petit peu dans l'impalpable. La question, je crois, très très concrète, c'est quels sont les peuples qui, effectivement, désireraient s'associer à ce projet de construction d'une Europe politique effective? Et Europe politique effective, ça veut dire, soyons clairs, ça veut dire gouvernement commun. Ça veut dire assez rapidement politique étrangère commune, politique économique commune, politique militaire commune. Beaucoup de choses qui engagent. Eh bien, à cette question-là, je crois qu'on voit des rudiments de réponse assez simples. Manifestement, les Anglais, on le voit aujourd'hui, ne seraient pas dans cette entreprise. Je pense que les Espagnols ne le seraient pas non plus. Je pense que la France et l'Allemagne le seraient, on le voit aujourd'hui, et ils le seraient pour différentes autres raisons, parce qu'ils partagent un modèle social très différent mais complémentaire. Je pense que l'Italie pourrait se débarrasser de Berlusconi, justement en adhérant à des valeurs qui lui permettraient de rejoindre ce bloc franco-allemand, et je pense que l'Italie est absolument indispensable pour rompre ce dialogue franco-allemand qui est trop dangereux si on en reste à ces deux pays. Je pense que la Belgique rejoindrait très certainement, et les Pays-Bas probablement aussi, peut-être également la Suède ou les pays scandinaves.
Qui finalement proposent tous une sorte de modèle social. Enfin,
qui proposent tous un modèle social. C'est très simple, ils sont tous des héritiers d'un modèle de capitalisme social.
Bien, je vous remercie Alain Caillé d'être venu. Je regrette qu'on ne fasse pas 3 émissions, parce que je pense qu'on aurait encore des choses à se dire. Je ne peux encore que... Je cherche le livre dans mon sac, tout va bien. Que vraiment recommander très 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 vivement la revue du MOS numéro 20 du deuxième semestre 2002, qui s'appelle « Quelle autre mondialisation ?». Quand je vous dis que c'est une revue, en réalité, comprenez que c'est un livre. Il fait plus de 350 pages avec des contributions absolument remarquables. Il est un peu cher, certes, il coûte 27 €, mais je crois vraiment que ça peut valoir le coup de se faire ce cadeau.
Est-ce que vous donnez le site web du MOS?
Je veux bien.
Ah. Donc, si des auditeurs désiraient en savoir plus, ils peuvent consulter le site de la revue, qui est www. J'en ai dit deux ou trois. 3 W. www.revuedumos.com. Revuedumos.com, M-A-U-2-S.
Et moi j'en profite pour dire qu'on a aussi un site à Dessous et des Hommes qui est www.dessousetdeshommes avec un tiret entre chaque mot.org. À la semaine prochaine!